Et sur la radio Vinyl Times, le Classic Rock Radio, comme chaque mardi maintenant, de prévu depuis la semaine dernière, le 10 Minutes with Budge, donc je rappelle, journaliste rock made in Algeria, situé sur Alger, qui va nous raconter ce soir donc la suite de Black Sabbath, la story notamment. La semaine dernière, on a eu droit à celle de Ozzy Osbourne. Cette semaine, donc, on va voir la partie 2, celle avec Ronnie James Dio. Bonsoir, Budge.
Bonsoir, ça va,
ça va, tu vas bien?
Ça va et toi?
Ouais, très bien, ça va, très bien. On commence à respirer sur Paris, on a de l'air, on a du vent, on a des tempêtes tropicales, enfin ça va, ça y est, ça. Le temps est revenu quoi.
Ici aussi.
Ouais, ok.
Hasard du calendrier ou pas.
Ouais, ok, ok.
Maintenant il fait plus frais.
Ok, bah superbe. Ok, très bien. Mais... Allez, donc. Ouais, la semaine dernière, donc, tu nous as conté l'histoire donc, de Black Sabbath, celle qui, notamment, qui résumait un petit peu, hein, on a essayé de faire ça au moins en 15 minutes, Ozzy Osbourne, donc, arrivait chez Geezer, la fameuse entrée de scène, en tout cas, celle, la rencontre entre Ozzy et Geezer, ça, c'est vraiment le début de l'histoire, plus jusqu'à l'album Heaven and Hell, jusqu'à l'arrivée de Ronnie James Dio, et là, ce soir, donc, on entame la partie 2.
Justement, c'était une arrivée assez tonitruante pour Ronnie James Dio qui avait quitté auparavant le Rainbow de Richie Blackmore sur un désaccord artistique profond. Lui ne veut pas des chansons pop. Mmh. Donc, il s'en va. Même si, et sachant qu'il faut savoir que Richie Blackmore est une forte tête. Donc, d'ailleurs, on s'y penchera un jour concernant Deep Purple et Rainbow. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'arrivée de Dio sur le navire Black Sabbath. Donc, Dio commence à écrire les premiers titres, dont le premier qui sera véritable carton, qui est Children of the Sea. Mm-hmm. Mais il ne faut pas oublier que Heaven and Hell est un virage à 180 degrés concernant Black Sabbath. Exit un chant monotone, linéaire, avec justement des compositions lourdes et pachydermiques pour un heavy metal assez speed. Déjà, on l'entend avec Neon Knights, ouais. la puissance de ce morceau annonce la couleur. Ronnie James Dio est là pour faire de Black Sabbath aussi un groupe qui explose la scène par des titres rapides.
Ouais, bien sûr.
Et s'en suivra une tournée. Et un autre album qui en 81 qui verra le départ de Bill Ward qui ne s'était toujours pas remis du départ d'Ozzy et l'arrivée de Vinnie Appice, frère aussi de Carmine Appice.
Alors ouais. Bonne question.
Qui faisait partie aussi d'un groupe qui est assez emblématique des années 60, c'est Vinnie Fudge. Mm-hmm. Mm-hmm.
Et justement, on dit Appice ou Appice, c'est ça le truc?
Appice.
APC, ok, d'accord. Ce qui me semble que c'était pitché, ok, d'accord. APC, ok, d'accord.
Et donc, s'en suivra une autre tournée suivant cet album de 80 qui est The Mob Rules, qui est aussi un changement assez profond du style de Black Sabbath, même si on sent encore ce côté occulte par des titres comme The Sign of the Southern Cross,
ouais.
Un titre qui est étendu en long, en large sur scène. Et. On peut très bien l'écouter sur justement le live de Live Evil qui est sorti en 82,
ouais.
Si ma mémoire est bonne, mm-hmm. Et qui a été aussi la cause du départ de Ronnie James Dio, à ce qu'il paraît, il rentrait dans les locaux des studios avec Vinnie Appice pour justement augmenter et la voix et la batterie. D'ailleurs, c'était l'ingé son du groupe c'était l'ingé son du studio qui avait accusé Dio et Appice de ça.
Ah,
ça, ouais. Ça a fait qu'ils ont été virés des studios d'enregistrement et le mixage s'est fait sans eux.
Mmh. D'où leur départ, quoi, en fait. Alors à ce moment-là, à cette période, c'était quand même assez grandiose parce qu'il y avait Ozzy qui démarrait sa carrière solo. Il y avait le Blizzard of Oz qui était là. Ou le Diary of Madman ou le Blizzard of Oz. Je crois que c'était le Diary of Madman le premier. Hein. Ouais, wow, je sais pas.
À l'époque, Black Sabbath devait sortir un live.
Ouais.
Justement, avec leur nouveau chanteur. En 80, ils avaient sorti Past Lives.
Ouais.
Qui est un mix de beaucoup de titres entre la période de 70 et 75.
Mm-hmm.
Puis, il y a eu, justement, Live Evil en 82.
Voilà.
Pour concurrencer l'autre
live.
L'autre live.
Ouais, Dozy.
De Dozy.
Le Speak of Evil.
Stick of Evil.
Voilà.
Avec, justement, je crois que c'était la première apparition de Jackie Lee en tant que guitariste,
Non, non, non,
si je te
non,
connais.
non, non, c'était Brad Gillis.
Ah oui, Brad Gillis, c'est vrai, Brad Gillis.
Ouais.
Jackie Lee est venu après,
Il est
par la
venu
suite.
après, il est venu après. Entre-temps, avant Jackie Lee, il devait y avoir George Lynch et ça s'est pas fait. Il devait y avoir Michael
Ah,
Schenker,
c'est
ça
pas
s'est
fait,
pas
ça c'est
fait.
pas.
Il y avait un autre guitariste, je sais plus. Il y a eu Bernie Tormé en attendant, qui a fait aussi un remplacement
Qui
temporaire.
était guitariste? Il était
Voilà.
le guitariste de Ian Gillan, justement.
Voilà.
Et là, tu me tends une belle perche pour parler de Ian Gillan, qui a été le chanteur qui a succédé à Ringo Dio au sein de Black Sabbath. Et on se souvient de cet album Born Again, qui, justement, limite, on peut dire que ça a un peu effacé la trace de Dio. Parce que quand tu écoutes l'album en lui-même, c'est un album qui déjà marque le retour de Bill Ward à la batterie.
Et c'est très heavy aussi, hein. Le titre Trashed et pouf.
Déjà,
Ouais.
je pense qu'il parle justement de l'anecdote de la manière dont s'est fait recruter Ian Gillan. Parce qu'il faut savoir que justement, un soir, Ian Gillan avait rencontré Geezer Butler et Tony Iommi dans un bar. Ils sont commencé à se torcher. Et justement, Tony Iommi lui a dit, écoute, toi t'es sympa, pourquoi tu viendrais pas laisse ta carrière solo de côté. Deep Purple, on sait, tu ne fais plus partie de ce groupe depuis longtemps. Ça fait maintenant plus de 10 ans que tu es en très mauvais termes avec Aichi. Et je pense pas que tu vas faire une reformation avec ce gars-là. Donc, viens avec nous. On a besoin d'un chanteur actuellement parce qu'on a viré Ronnie, parce qu'il a merdé en studio. C'est simple. Le lendemain, gueule de bois. Et là, il se souvient de quelques bribes. D'une bonne vingtaine de pintes de bière et d'une discussion avec Tony Iommi, Geezer Butler. Et je pense qu'à midi, il les a sûrement appelés, ou bien c'est eux qui l'ont appelé pour lui dire, Bon, tu viens répéter? Ça, je pense que c'est le scénario idéal, le vrai scénario de ce qui s'est passé entre Gillian et Black Sabbath. Donc, par la suite, ça a été Born Again. Born Again, qui justement marque aussi la renaissance artistique de Black Sabbath, parce qu'il y avait un moment de flottement après le départ de Dio, une certaine de perdition de la part des autres membres qui étaient un peu démoralisés, mais ça a repris. Mais Gillan a fait la tournée, mais ne se sentait pas comme étant un membre
De Black
de
Sabbath,
Black Sabbath. Et entre-temps, Richie Blackmore, Roger Glover, John Lord et bien sûr Ian Paice l'ont contacté pour dire bon,
Deep
on va
Purple.
reformer Deep Purple et on fait un album.
Ouais.
Et on connaît la suite de l'histoire concernant Deep Purple et les années 80.
Ouais.
Maintenant, les années 80 ont beaucoup amoché les groupes des années 70. Bon,
Il y a eu une
tu as
guerre
déjà Black
terrible.
Sabbath. Tu as déjà Black Sabbath qui était pratiquement un navire à la dérive en 84, après le départ de Gillian. Ils ne savaient plus quel chanteur prendre. Et
Alors,
tu as, oui.
il y a eu plusieurs tentatives. Il y a eu Glenn Hughes, il me semble. Je crois qu'il y a eu sur Trapèze, c'est ça? Il y a eu Glenn Hughes. Un peu plus
En
tard, peut-être.
85, 86, Tony
Ouais.
Iommi voulait justement, c'était l'occasion pour lui de dire, bon, on n'a pas de chanteur pour Black Sabbath, bon, on laisse Black Sabbath en pause, je vais faire mon album solo.
Il y a un mec qui a auditionné que beaucoup de gens ne connaissent, mais enfin,
Jeff Hammond.
non, 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 John Oliva, Savatage, lui aussi il a auditionné. Et John Oliva a auditionné et quand il a appris que c'était Glenn Hughes, bon bah il a lâché l'affaire quoi. Voilà, ça c'est vrai, hein, je te promets que c'est vrai, et je le tiens de sa bouche, hein, je te le dis, hein, de lui-même quoi. Et je l'ai lu aussi sur plusieurs, sur quelques interviews à l'époque sur les magazines anglais. Donc quand il raconte, même aujourd'hui quand il raconte son histoire, tu peux sur les pages de fan club, tu peux lire sur Sabbath Legion ou des choses comme ça. Il a bien auditionné pour Black Sabbath quoi. Foot à
Et
l'époque.
ça aurait fait un ajout assez conséquent.
Ah ouais, donc il faut,
Et
Et donc ça c'était. Donc en fait il y a eu plusieurs chants et donc finalement il y a eu Glenn Hughes quoi sur Trapèze, c'est ça? Donc 85 on dit, quelque chose comme ça.
86,
86.
86 Star, 7 Star. Donc, à la base, Tony Iommi voulait que ce soit un album solo,
Voilà.
un album de Tony Iommi. D'ailleurs, ça lui a pris pratiquement 15 ans pour faire un vrai album solo, seul, comme un grand. L'excellent Iommi que je te conseille, qui a des featurings de dingue, dont Phil Anselmo et le regretté Peter Steele de Type O Negative.
En quelle année est sorti ce disque?
2000, il
Ah
s'appelle
oui,
Iommi.
d'accord.
Un album que je conseille. D'ailleurs, il y a même un très beau, une très belle chanson avec des chanteurs de l'époque, des années 90. Et même quelques vieux routards comme Billy Idol.
Ah ouais, d'accord.
Et donc, en 86, sort cet album-là. Et ce n'est plus un album solo de Tony Iommi, c'est un album de Black Sabbath featuring Tony Iommi. Donc, c'est Seven Stars. Seven Stars, quand tu l'écoutes, ce n'est pas du tout un album, justement, de Black Sabbath. Ce sont des compositions qui sont loin de ce côté, justement,
Sombre, lourd.
satanique, lugubre, même si certains titres traitent de thématiques assez mystiques, comme l'Égypte antique, je crois, sur Seven Stars. Donc, ou Sphinx, s'ensuit une tournée. Les premières dates se passent bien, puis Glenn Hughes, qui était rongé à l'époque par la cocaïne, par beaucoup d'abus, malgré une voix cristalline des plus exceptionnelles dans le rock, se bagarre dans un bar et se saigne les cordes vocales. Les cordes vocales sont on va dire recouvertes de sang qui a coagulé, ce qui fait que Glenn Hughes ne peut pas chanter.
En
Dans
quelle
le
année nous
moment,
sommes là? En quelle année nous sommes?
86, en 86,
C'est extraordinaire
absolument en 86.
parce que là, c'est quand même les prochaines démos du 1987 de Whitesnake. Et ouais. Et Coverdale, pareil, a aussi les cordes vocales très abîmées. Il ne peut pas chanter l'album, donc il est en rééducation. Donc cette période-là, elle est quand même, elle est assez tendue, quoi, pour les chanteurs, quoi, effectivement, pour les deux plus gros chanteurs de l'histoire, enfin, la fin des années 70, quoi.
En même temps, quand on revient sur Gillan, c'était la même chose, hein. Ça commençait à sa voix commençait à s'affaiblir, même si elle était encore très puissante. Mais ça, on y reviendra plus
Ouais,
tard.
on y reviendra plus tard. Bah écoute,
Et
Budge.
je te compte, oui.
Ouais, Budge, en tout cas, juste pour dire que Black Sabbath, c'est vraiment le groupe, toute catégorie, période, bien sûr, bien évidemment, celle qui couvre les 70 jusqu'à 80, jusqu'à 83, 84, ça a été, c'était énorme, quoi. C'était vraiment énorme, quoi. Et en parallèle à ça, il y avait Ozzy qui démarrait sa carrière solo, qui était aussi, qui commençait à devenir énorme, quoi. Donc tu vois, on avait quand
Et
même,
justement,
les bases étaient
pour
posées.
Ozzy, s'il n'y avait pas eu la fille du producteur de leur manager, Don Arden, Sharon, qui n'avait pas sorti un peu de la merde Ozzy en 79, eh bien, je pense qu'il serait mort dans les années 80 d'une bonne cirrhose du foie.
Ouais. Sharon, à savoir pour la petite histoire, puisque toi aussi tu me tends la perche, Sharon a racheté le contrat management à son père de Ozzy. Hein. Attention,
Exactement.
elle lui a racheté. Hein. Elle lui a pas donné, elle l'a racheté. T'imagines la famille business, quoi.
Ah ben oui, hein, enfin. Mais ce qui c'est, il faut savoir que Ozzy, justement, on revient un peu, on remonte un peu le temps et sur 79-80, juste pour resituer ce qui se passe chez Ozzy. Ozzy était marié à l'époque, pour le savoir. Personne, je pense que personne ne sait
Non.
que Sharon, c'est sa deuxième femme.
D'accord.
Jusqu'en 81, il était marié avec une femme
D'accord.
et deux enfants.
OK.
Mais justement, les relations étaient plus que délitées. Donc, ça, le passage, pour Ozzy Osbourne vers une carrière solo, s'il n'y avait pas eu Sharon Osbourne, il serait mort dans les années 80, sans le moindre souci. Et sans ça, je pense qu'il n'y aurait pas eu une certaine concurrence au début des années 80 entre Ozzy et Tony Iommi. Parce que on peut dire qu'il y avait une certaine concurrence entre les deux.
Voilà.
Quand tu vois ce que Ozzy avait comme gars, comme guitariste, entre 80 et 83. Donc, on parlait justement de Brad Gillis et de Jackie Lee, mais il faut surtout pas oublier Randy Rhoads.
Ah bah
Randy Rhoads
oui. Ah
qui a
oui.
été le véritable tremplin pour Ozzy pour une carrière, sachant que et avec les musiciens qui ont été justement derrière le premier album et le deuxième album, Lee Kerslake et Bob Daisley, et bien sûr Don Airey, qui pendant on va dire les années 70 à 80, 90 a beaucoup travaillé sur beaucoup de groupes. D'ailleurs, Don Airey avait travaillé sur le dernier album de Black Sabbath avec Ozzy, Never Say Die.
T'es fan de Don Airey, toi? Moi, j'aimais bien Don Airey.
Moi, j'aime bien déjà le fait qu'il fasse partie maintenant de Deep Purple depuis 2002.
Tu sais que c'est une légende, lui, hein. C'est vraiment une légende, hein.
Oui, bah, écoute, hein, Gary Moore, Judas Priest, même des groupes de power metal dans les années 90, le gars est tout simplement multitâche. C'est, je pense que c'est un des rares musiciens des années 70, fin 70, qui justement ont su être partout.
Ouais, partout,
C'est,
partout.
c'est... D'ailleurs, quand on revient sur Black Sabbath, ça a été une véritable maladie avec la moitié l'autre moitié des années 80. Bon, il y a eu Glenn Hughes part, ils engagent Rick Dylan va enregistrer les premières démos pour The Eternal Idol, mais des soucis financiers et une très mauvaise gestion concernant les enregistrements fera qu'il part. Et là, il trouve une nouvelle perle qui fera que Black Sabbath aura un chanteur stable jusqu'en 92, c'est Tony Martin.
Alors, ça fera, je pense qu'on fera, on fera la partie 3 là-dessus sur la semaine prochaine.
Ah
J'ai
ouais.
vu, j'ai vu cette tournée avec Tony Martin. Je l'ai vu cette tournée. Je l'ai vu à Montréal. C'était la tournée avec Motorhead et Morbid Angel. J'ai vu ça. Et je peux te dire que le line-up, c'était Bobby Rondinelli qui venait de Rainbow. Ouais, il y avait Geezer qui était là. Il y avait donc Tony Martin et Tommy Iommi, quoi. Voilà, quoi. Et le clavier, je m'en souviens plus du tout. Mais je m'en souviens très bien de cette tournée, quoi. C'était.
Le clavier à l'époque, je pense que c'était toujours Jeff Nichols.
Peut-être,
Si ma
possible.
mémoire est bonne.
Possible, possible, je m'en
Parce
souviens plus du tout.
que Jeff Nichols a été, justement, c'est le membre qui a été, c'est le cinquième Black Sabbath.
D'ailleurs, je me souviens très
Il n'a
bien.
jamais été.
Bah, je te raconterai l'histoire la semaine prochaine parce que là j'en ai des anecdotes et tout. D'ailleurs, c'était la première tournée de Mick Eddy avec Motorhead. Donc j'avais rencontré Mick Eddy, j'étais pote, super pote avec un des crews de Morbid Angel. C'était à Montréal à ce moment-là. Donc la semaine prochaine, je te donne rendez-vous pour la partie 3 de ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Les albums notamment avec Tony Martin sont juste somptueux. Alors là, moi j'adore ces disques, Eternal Idol notamment. Il y a aussi Tear, Endless Cross, ils sont fantastiques quoi. Il y en a trois quoi. C'est énorme quoi. Tony Martin a été un grand 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 chanteur de Black Sabbath malgré qu'il a été bien moins connu que les autres. Mais bon, effectivement, c'est une grosse période, voilà. Et puis je te dis, hein, pour revenir sur Ozzy tout à l'heure avec la comparaison avec Ronnie James Dio, bien évidemment, Ozzy se moquait de Ronnie James Dio d'ailleurs sur cette tournée à l'époque Speak of Evil. D'ailleurs, donc je rappelle que c'était Brad Gillis le guitariste. Ozzy se faisait ramener à boire sur scène et puis il y avait un petit nain qui arrivait et Ozzy l'appelait This is Ronnie quoi. Il y a des vidéos là-dessus. Hein. Voilà, c'était l'humour d'Ozzy quoi, c'était ça quoi. Voilà, c'était la guéguerre quoi.
Maintenant, Ozzy, même pour ses Ozzfest, il fait des parodies, des vidéos parodiques.
Ouais, c'est
le
lui-même.
Spoof de The Osbourne, hein.
Ouais.
Ils sont magnifiques.
Ouais, et puis bon, effectivement, donc pour revenir encore, le Randy Rhoads qui venait de Quiet Riot, un groupe qui était signé au Japon et nous aux États-Unis, qui avait déjà sorti deux albums auparavant, ou trois, il me semble, et qui arrive chez Ozzy Osbourne, et ensuite Quiet Riot qui va sortir Metal Hills, et puis là, ça fait un boom incroyable, quoi. Quiet Riot qui vont, un premier groupe de metal, de hard rock à rentrer au hit parade aux États-Unis, au Billboard aux États-Unis, enfin bon, bref, quoi, tu vois, bon, il y a toute une grosse histoire en tout cas. Butch, merci en tout cas pour ce soir, c'est juste top.
Merci
juste pour vous dire que après l'émission, vous retrouvez bien évidemment le podcast de l'émission et ainsi le podcast de 10 Minutes with Butch que vous retrouverez sur la page de 113 Rock pour donc réécouter l'émission. Et je te dis à la semaine prochaine, Butch, et pour la partie 3 de Black Sabbath. Et puis je pense qu'il va y avoir pas mal d'anecdotes parce que les 85, 86, 87 jusqu'à 94, ça c'est énorme quoi.
Justement, un dernier mot concernant justement Black Sabbath fait partie de ces groupes des années 70 qui justement, très honnêtement, moi je suis parfois un peu pessimiste concernant les nouveaux groupes et tout ça. C'est un des groupes qui a laissé des traces indélébiles sur l'histoire de la musique, tout comme l'a été, on va dire, Elton John, Motorhead ou encore Deep Purple. Mm-hmm. Ce sont des légendes qui sont pratiquement intouchables. Mm-hmm. Et chaque anecdote vaut de l'or.
Ouais. Ouais. Chaque anecdote, chaque fait geste, chaque beuverie dans les bars, allez, tiens, demain tu viens répéter, tiens ceci. En fait, les mecs, chacun connaissait leurs histoires, quoi, et donc ils se récupéraient les uns les autres, quoi. La seule chose qui n'est jamais arrivée, et la chose, donc effectivement, l'action qui n'est jamais arrivée, c'est, je vais peut-être dire une bêtise, mais bon, Dio, a-t-il pensé un jour à chanter dans Deep Purple? Point d'interrogation.
Honnêtement.
Ouais, ça m'étonnerait, mais bon, vu ses relations avec Blackmoor, c'était quand même tendu. Mais
enfin, ce n'était pas aussi tendu qu'on le croit. Hein. Quand tu vois Blackmoor, je pense que le seul chanteur avec qui il a une grosse dent, c'est bien Ian Gillan.
Oui, mais.
Et concernant, d'ailleurs, pour voir un peu comment le gars est toqué, okay, par exemple, quand Didier Zio est parti de Rainbow, il a engagé un chanteur qui s'appelle Graham Bonnet.
Ouais.
Graham Bonnet, ouais. Son look est assez particulier. C'est
cravate.
Le gars qui est cravate.
Ouais, tout le monde disait qu'il allait au bureau. Il allait au bureau. Oui, c'est Malmsteen disait que Graham Bonnet va au bureau. Au lieu d'aller au concert, lui, il va au bureau. Malmsteen disait, Malmsteen disait de Graham Bonnet, j'ai un comptable sur scène.
Et Graham Bonnet, ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gars, quand même, il est derrière Down to Earth.
Ouais.
C'est vrai que l'album est un revirement stylistique de Rainbow qui est assez déroutant, mais ce sera pire par la suite.
Mais on viendra.
Même si c'est beau.
On y reviendra. On y reviendra dans les semaines à venir, notamment de tous ces groupes, Black Sabbath, Rainbow. Enfin, Black Sabbath, on terminera la partie 3 la semaine prochaine. On aura Rainbow, bien évidemment.
Pour te situer, justement, je voulais terminer sur cette petite anecdote concernant Richie Blackmoor. Richie Blackmoor a viré Graham Bonnet à cause de sa coupe de cheveux et de son look.
Ouais, il fera le bonheur d'Alcatraz, t'inquiète pas.
D'ailleurs, un jour, on reparlera de Rainbow et je te ressortirai cette petite anecdote.
Ok, très bien. Bah écoute, Butch, merci beaucoup encore d'avoir été parmi nous ce soir. Et bien évidemment, il y a tellement d'anecdotes, il y a tellement de stories là-dessus, ces légendes-là, qu'on les a en mémoire encore. Et franchement, des histoires, il y en a eu pléthore, quoi, tu vois. Il y en a eu beaucoup, 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 quoi. Et je suis persuadé que lorsque tu vas raccrocher, je vais encore me souvenir. Ah oui, il y a eu ça. 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 Aïe. Allô, allô? Ah. Allez, c'était donc Butch sur le 113 Rock, sur la radio Vinny Times, le Classic Rock Radio, le 10 Minutes with Butch qu'on aura donc la semaine prochaine. Donc il nous reviendra la semaine prochaine pour nous compter donc la partie 3 de Black Sabbath, notamment avec Tony Martin au chant. On continue en musique avec le Live Evil, Lady Evil de Black Sabbath sur la radio Vinny Times, le Classic Rock Radio, l'album Even and Hell, Arag Melodica Marcum, Rock.